Bonsoir à toutes et à tous, chers auditrices, chers auditeurs. Vous écoutez Radio Campus et c'est Quoi de neuf doc, l'émission des jeunes chercheurs de Clermont-Ferrand, qui commence avec un petit peu de retard ce soir. Hein, mais bon, c'est aussi, il faut dire que c'est la toute première pour Quentin tout seul à la technique. Donc, on va lui pardonner s'il y a des petits problèmes techniques. C'est normal.
Gna gna gna.
Alors, à l'animation, donc, c'est moi-même, Olivier Carvin, doctorant en économie, un petit peu enrhumé ce soir. Mais bon, quoi de plus normal pour un mois de février ? Autour de moi, mon équipe de fidèles chroniqueurs. Alors ce soir, vous retrouverez donc Arnaud Personne. Salut Arnaud, tu
Bonsoir.
Vas bien ?
Ça va, ça va.
Ça va, pas trop stressé pour une conf, c'est ça que tu vas passer demain,
non mais c'est demain, non pour l'instant ça va.
Ça va,
non,
t'es c'est... tranquille. Moi, j'aimerais bien être dans ton état avant la veille d'une conf, hein, personnellement. Alors j'aimerais bien pouvoir dire le thème de ta chronique aujourd'hui, mais moi-même je ne la connais pas. Alors peut-être
On va parler de proportionnalité.
De proportionnalité, voilà. Très bien. Et ensuite, donc, nous avons Jules Barthélémy, doctorant en droit public. Bonsoir, Jules.
Bonsoir.
Donc, dans ta chronique Europolis, tu abordes chaque mois le système politique d'un pays européen. Et donc, quel pays aborderas-tu ce soir ?
Bien, nous allons aller en Italie, puisque c'est au centre de l'actualité en ce moment.
Effectivement. Donc, ça risque d'être très intéressant. Et ensuite, nous passerons aux 8 minutes avec, et en invité ce soir, donc une doctorante en littérature, Issiona Nour. Bonsoir, Issiona.
Bonsoir.
Bon, je sens que tu es un petit peu stressée, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, hein, et ça ira beaucoup mieux tout à l'heure.
Merci.
Et enfin, nous retrouverons donc l'agenda de février, présenté par Quentin Rodriguez, doctorant en philosophie des sciences, donc qui opère aussi à la technique. Bonsoir, Quentin.
Bonsoir.
Est-ce que cette fois-ci, ton micro marche, tu peux dire 2-3 mots ?
Ouais, regarde, je peux vraiment dire
nickel,
plein.
Nickel, très bien.
On n'arrête pas le progrès.
Tu pourras parler avec nous ce soir. Donc, j'espère que vous êtes bien installés au chaud, hein, on ne va pas tarder plus longtemps. Nous commençons donc dès à présent avec la chronique Vertige mathématique d'Arnaud.
Vertige mathématique.
Donc, rebonjour à tous. Donc, comme je vous ai dit, j'aimerais aujourd'hui qu'on parle donc de proportionnalité, car pour une fois, c'est un concept mathématique que l'on utilise tous les jours, connu de tous et qui semble très intuitif. Enfin, je dis bien qui semble. Alors donc, j'imagine que vous savez tous ce qu'est la proportionnalité. Prenons un exemple, hein, si vous achetez 1 kg de pommes à 2 euros, alors comme le prix est proportionnel au poids que vous voulez, vous savez très bien que si vous achetez 2 kg, vous allez payer... Olivier ?
Désolé, je n'ai pas écouté.
2 fois 2, 4 euros. Et si on achète 3 kilos, ça fera 3 fois 2, 6 euros.
Exactement, j'allais le dire.
Et bon, encore, il est doctorant en économie.
Oui, c'est ça. Pourtant, j'avais pris un truc exprès pour lui. Mais... Bon, disons qu'il y a eu un petit pépin, quoi. Géométriquement, cela se traduit par une droite. C'est-à-dire que si on trace le prix que l'on paye en fonction du poids de la pomme achetée, vous allez obtenir donc une droite. Son coefficient directeur sera le rapport entre le prix payé et le poids désiré, soit 2 euros ici. Dans le monde dans lequel on vit, beaucoup de choses sont proportionnelles. Par exemple, le salaire que l'on obtient en fonction du nombre d'heures travaillées, ou encore le nombre de personnes pour lesquelles on fait une recette de cuisine en fonction des ingrédients. Encore un exemple, la distance sur une carte entre deux points par rapport à la distance réelle.
Les recettes de cuisine, ça dépend qui t'invite, hein, quand même. Hein, mais...
Ah, ça c'est vrai, mais bon. Ouais. En général, on essaie de faire quelque chose de proportionnel. Bref. En général, on perçoit la proportionnalité comme une dilatation ou un zoom sur ce que l'on regarde. Si je grossis par deux la quantité de pommes, eh bien, le prix grossit aussi par deux. Alors, savez-vous qu'une fourmi peut soulever 100 fois son poids ? Qu'un gorille peut porter une tonne, qu'une sauterelle peut faire des bonds de plus de 20 fois sa taille, qu'un rat peut faire une chute de 10 mètres sans se tuer. Alors, vous allez me dire, quelle est la relation avec la proportionnalité ? Eh bien, imaginez ces espèces beaucoup plus grandes. Une fourmi, une sauterelle de la taille d'un homme seraient sûrement des animaux extraordinaires, capables de prodiges. Pour ce qui est du gorille, Hollywood s'en est chargé à notre place. Il suffit de regarder King Kong, par exemple. Mais ce fabuleux gorille serait-il aussi fort et aussi agile qu'on peut le croire ? Est-ce que sa force, son agilité, sont proportionnelles à sa taille ? Les méchants ogres et les gentils colosses qui peuplent les légendes et les contes de nos cultures pourraient-ils faire tout ce qu'on leur attribue ? En fait, non, pas du tout. Si on est assez naïf pour croire cela, c'est que nous avons une mauvaise perception de la proportionnalité. Un peu de mathématiques nous permet de conclure que ces monstres seraient en fait bien fragiles. Prenons l'exemple du King Kong, le célèbre singe de Cooper et Shostak inventé dans les années 30. Il mesure environ 8 mètres de haut, et correspond donc à environ 4 fois les proportions d'un gorille classique qui ferait environ 2 mètres. C'est-à-dire qu'on a pris un gorille et qu'on a multiplié sa taille, sa largeur et sa hauteur par 4. Mais alors, qu'en est-il de son volume ? Son volume, lui, ne sera pas multiplié par 4, mais par 64, soit 4 au cube. C'est le produit de la hauteur, de la largeur et de la longueur qui chacune sont multipliées par 4. Il pèsera donc 64 fois plus qu'un gorille classique. Autrement dit, le poids n'est pas proportionnel au grossissement, comme on peut le croire, mais est multiplié par le cube de celui-ci. Mais alors, qu'en est-il de sa force ? Est-elle aussi 64 fois plus grande ? Eh bien non. La force est proportionnelle seulement à la hauteur et à l'épaisseur des muscles, et ne dépend pas de leur longueur. Plus un muscle sera gros et large, plus vous serez fort. Sa longueur n'influence en rien la force. Ainsi, si la longueur, la largeur et la hauteur du gorille sont multipliées par 4, sa force sera multipliée seulement par 16, 4 pour la hauteur du muscle et 4 pour l'épaisseur du muscle. Donc il sera 16 fois plus fort qu'un gorille classique, mais devra supporter 64 fois plus de poids. Pour imaginer le poids qu'un tel monstre aurait à supporter, on peut penser à ce que nos jambes auraient à supporter si on pesait 4 fois plus sans être plus gros. Trou de proportion gardée, bien sûr. C'est ce que le King Kong ressentirait. Naturellement, il ne pourrait pas sauter ou grimper le long des immeubles, comme c'est le cas dans les films. C'est tout juste s'il pourrait marcher. Prenons un autre exemple, celui d'un insecte. Une fourmi mesure à peine 1 cm. Si on la met à notre échelle, disons 1 mètre, elle serait alors 100 fois plus grande. Donc, 100 au carré fois plus forte, soit 10 000 fois plus forte. Et 1 million de fois plus lourde, car 10 au cube, ça fait 1 million. Un simple calcul nous montre que, alors qu'elle nous soulèverait donc à peine sa masse, sans plus. C'est parce qu'elle est si petite, en fait, qu'elle est si forte. Le fait d'être petit confère des avantages. Prenons un autre exemple. Un petit animal, tel un rat, peut survivre à des chutes de plusieurs mètres. Le même animal, 10 fois plus gros, ne le pourrait pas. La résistance à un choc dépend de la solidité des os. Et là encore, la longueur n'intervient pas dans la solidité d'un os, seule son épaisseur et sa largeur comptent. La force de gravité étant proportionnelle à sa masse, la chute sera amplifiée d'un facteur cube, comme on vient de le voir, alors que la résistance seulement d'un facteur carré. Bref, un rat de 20 kg se briserait les os en chutant, ne serait-ce que d'un mètre. Et du coup, l'expression populaire « si les rats pesaient 20 kg, ils seraient les maîtres du monde » n'est plus tout à fait justifiée. Alors soyons rassurés, King Kong n'est pas sur le point d'apparaître dans une jungle lointaine, et les fourmis gigantesques ne sortiront pas tout de suite d'un laboratoire d'un savant fou pour nous menacer. Si chaque espèce a la taille qu'elle a, il y a une raison bien particulière. Les lois de la nature optimisent toujours les êtres en fonction de l'environnement dans lequel ils vivent. À nous d'avoir un regard critique quand les auteurs de science-fiction nous sortent des monstres aux proportions stupéfiantes. We'll be right back.
Et vous venez d'entendre Black Mass, interprété par le groupe The White Stripes. Alors, Arnaud nous a parlé de proportion. Est-ce que la proportionnelle est mise en place en Italie ?
C'est
ce que va nous dire de suite Jules Barthélémy dans sa chronique Europolis. Et donc, sans virgule, hein, effectivement, il n'y a pas de virgule sonore pour toi, donc tu peux y aller dès maintenant.
Ou alors Olivier peut faire la virgule bruitée à la bouche.
Europolis.
Buonasera a tutti, bonsoir tout le monde. Les élections européennes approchent, en effet, et avec elles, des crises politiques inédites. Et c'est pour ça que ce soir, on va en Italie. Cet État avec lequel la France est officiellement en crise diplomatique, suite à une ingérence du gouvernement italien dans les affaires internes de la France, le gouvernement français a rappelé son ambassadeur. En diplomatie, cette pratique rappelle symboliquement la phase précédant le conflit militaire. Autant dire que le geste est fort, mais il y a peu de risques que nous entrions en guerre. Mais quand même, comment en sommes-nous arrivés là ? Comment le système politique italien s'est-il à ce point nécrosé qu'aujourd'hui sont au pouvoir d'authentiques fascistes qui menacent jusqu'à l'amitié entre nos deux pays ? Convoquons le tribunal du grotesque. Trois acteurs essentiels ont provoqué cette situation. Alors, mon premier, comment vous dire, il est difficilement contournable. C'est presque une sorte d'icône de l'indécence politique depuis plus de 25 ans, sans avoir perdu un seul cheveu et pris une seule ride. Vous avez deviné ?
Beppe Grillo.
Berlusconi.
Berlusconi, ah, Silvio, oui, on ne oui. le présente plus.
Bunga bunga.
Bunga bunga. Les plus jeunes ne le connaissent pas sans doute, mais lui connaît les plus jeunes. Berlusconi, c'est l'archétype de l'increvable homme politique, d'affaires et de médias combinés, maître dans l'art de se subtiliser à une justice qu'il fait fustiger dans ses médias aux ordres, et grand praticien des alliances avec l'extrême droite. À côté de lui, Frank Underwood, c'est Winnie l'ourson. Bref, Berlus, si vous êtes né dans les années 90, vous connaissez forcément. Son parti s'appelle la FI, FI pour Forza Italia, bien sûr, un parti centré autour de son vieillissant leader et qui peine à s'en émanciper. L'accusation sera simple. Par ses choix d'alliance, Silvio Berlusconi a légitimé la place des fascistes dans une coalition au nom si ironique de centrodestra, centre-droit. Après des dizaines d'années d'alliance et une pile d'affaires politico-financières visant le Cavaliere, comme il est surnommé chez nos voisins, les fascistes sont parvenus à s'imposer comme la première force de la coalition. Alors, pour bien comprendre, il faut passer par une explication du système électoral italien. Cette minute est sponsorisée par l'Union des fabricants d'aspirine. Alors, deux chambres, une Assemblée nationale et un Sénat, comme en France. Les députés et sénateurs sont élus selon la règle du Rosatellum. Depuis la réforme électorale de 2017. Alors, je ne vous raconte pas les systèmes antérieurs, car même les plus volontaires ont du mal à l'expliquer. Alors, aujourd'hui, deux tiers des sièges sont répartis justement à la proportionnelle. Vous votez pour un parti au sein d'une coalition de partis, et chaque parti obtient un nombre de sièges correspondant proportionnellement à son score. Jusqu'ici, tout va bien. Mais un tiers des députés et sénateurs sont élus dans des circonscriptions au scrutin majoritaire à un tour. Alors, on l'avait vu en Allemagne, la logique serait que le candidat arrivé en tête soit élu. Oui, mais non. Ce n'est pas comme ça que l'on fait en Italie. La coalition joue un rôle majeur puisque l'on regarde le candidat arrivé en tête de chaque coalition et on lui rajoute les scores des candidats de la coalition arrivés derrière lui. Vous pouvez voter pour une personne, mais votre voix sera peut-être attribuée à une autre personne. Avec Berlusconi, si vous votiez à droite, vous votiez aussi potentiellement pour l'extrême droite. Et inversement, selon quel candidat est en tête. Si le Cavaliere a espéré garder le leadership de sa coalition et profiter de voix obtenues par les candidats fascistes pour gagner des sièges, il s'est un peu planté car c'est l'inverse qui s'est produit, principalement. Bref, les fascistes peuvent dire grazie Berlusconi, obtenant 49 sièges au scrutin majoritaire, ils sont alors en capacité de former une coalition, ce qui n'aurait pas été le cas s'ils avaient été isolés et n'avaient emporté que des sièges au scrutin proportionnel. Nous en venons au second responsable de la situation, dont la décision de former un gouvernement avec l'extrême droite risque de rester dans les mémoires comme l'une des plus mauvaises idées de l'histoire politique italienne.
Beppe Grillo, j'insiste.
Oui, voilà, Beppe Grillo et le Movimento 5 Stelle et également son leader politique, Luigi Di Maio. Alors ce mouvement, comment dire ? On l'a beaucoup comparé aux Gilets jaunes, mais là où les Gilets jaunes n'ont pas de structure ni de chef
et partagent parfois des propositions en particulier comme l'ISF ou le référendum d'initiative citoyenne qui existe, soit dit en passant, en Italie et n'a pas empêché les fascistes d'arriver au pouvoir. Le 5 étoiles, lui, c'est un mouvement structuré avec un leader idéologique, Beppe Grillo, si on peut dire, et un leader politique, Di Maio. Mais pour autant, il est impossible de tirer la moindre cohérence idéologique dans ce mouvement. Ils sont un peu tout, écologistes, anti-réfugiés, eurosceptiques, pro-sociales, anti-impôts, selon la journée. Ils prennent tout en même temps, faisant finalement de ce parti, qui fascinait au départ, une sorte de partenaire facile de la politique italienne. Porté par le rêve de nombre d'Italiens d'une vie politique débarrassée des affaires de corruption et d'un parti ni de droite ni de gauche, hein, de plus, ce parti a connu un grand succès lors des dernières élections générales de 2018. Obtenant plus de 32% des voix. En capacité de gouverner avec le centre-gauche ou l'extrême droite, la Cinque Stelle optera finalement pour la seconde option. Depuis, les fascistes ne cessent de progresser aux élections locales et dans l'opinion, tandis que le 5 étoiles se tasse et cesse nettement de gagner des partisans. Au-delà de celles et ceux qui n'ont pas accepté, on les comprend, l'alliance avec l'extrême droite, il semble que le chef des fascistes plaît à des électeurs convertis au discours raciste. Depuis un an, Le 5 étoiles est ainsi grignoté par son partenaire qui le dépasse. L'alliance de gouvernement a permis aux fascistes de retrouver le pouvoir et ces derniers pourraient ne plus avoir besoin des ouailles de Beppe Grillo si l'on s'en tient à la tendance des derniers résultats régionaux. Beppe Grillo, tiens, l'humoriste fondateur du 5 étoiles, est l'indice vous permettant de trouver le troisième et dernier responsable de la situation. Il s'agit d'un ancien président du Conseil et de sa ligne politique de fermeture à Grillo qui a favorisé la tendance des 5 étoiles prenant une ligne populiste et une alliance avec l'extrême droite.
Matteo Renzi.
Bravo. Il s'agit en effet de Matteo Renzi et de la ligne politique du Partito Democratico, qui, organisant des primaires ouvertes afin de désigner son premier secrétaire, ce parti avait pourtant refusé en 2011 la candidature de Beppe Grillo. Il est à noter, au-delà des questions de procédure, que ce refus fut accompagné de propos extrêmement moqueurs sur Beppe Grillo et sa capacité de faire de la politique. 7 ans plus tard, le mouvement 5 étoiles fondé par Beppe Grillo est le premier parti d'Italie au soir des élections de 2018. Les démocrates sombrent à seulement 18% des voix, mais n'en demeurent pas moins d'éventuels partenaires de gouvernement, d'un 5 étoiles plus que souple idéologiquement. Sauf que le soir même des élections, Matteo Renzi, qui loupait alors son grand retour, ferme la porte à toute négociation en ce sens. Dans les jours qui suivent, Beppe Grillo publie une tribune dans la Repubblica, journal proche du Partito Democratico, relançant l'espoir d'une coalition. Mais la réponse reste non. Et même l'intervention du président de la République, Sergio Mattarella, n'y fera rien. La porte de Renzi est close. Les responsabilités de la situation sont multiples. Les fascistes ont su profiter des ambitions d'un Berlusconi dinosauresque, de la fermeture d'un Renzi vexé par le désamour des Italiens et de l'absence de cohérence d'un 5 étoiles qui n'arrive toujours pas aujourd'hui à définir son identité. Les Italiens sont-ils alors condamnés à se réveiller un matin en ayant basculé irrévocablement dans le fascisme ? Où vont-ils nous surprendre et tourner le dos à un parti qui menace jusqu'à une vieille amitié entre nos deux nations ? Souhaitons, dans ce cas-là, que les leaders politiques seront cette fois à la hauteur.
Moi, j'ai une question. Quand tu dis que le mouvement 5 étoiles, c'est ni droite ni gauche, contre tous les partis, anti-corruption, mais qui n'aime pas les migrants, mais qui est quand même pro-business... Moi, ça me fait un peu penser à La République En Marche, non ?
Il y a pas mal de monde qui fait un parallèle, justement, on les compare avec les Gilets jaunes, mais je pense que c'est un parallèle assez faux, enfin, qui ne correspond pas, en fait.
D'accord.
Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, nemmeno il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità, è un grande amore, mai più grande esisterà. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità, è un grande amore, mai più grande.
Et vous venez d'entendre Parla più piano, interprété par Gianni Morandi. Merci Jules pour cette chronique très claire. Et merci aussi de ne pas avoir choisi Bella Ciao comme chanson pour représenter l'Italie. Parce que alors, honnêtement, moi je n'en peux plus de cette chanson. Alors, après l'Italie, on va continuer notre voyage. Mais cette fois-ci, nous voyageons dans le temps avec la thèse de Ilsiona Nour, dont nous allons parler dans le 8 minutes avec.
Huit minutes avec.
Voilà, Ilsiona, il ne faut pas parler pendant que les micros sont ouverts, hein, même pendant les virgules sonores. Eh bien, bonsoir, Ilsiona.
Bonsoir.
Donc, tu voulais dire quoi?
Eh bien, je n'ai pas l'habitude des radios parce qu'au Moyen-Âge, il n'y en avait pas. Du coup, je suis tellement dedans sur ma thèse et j'ai tout perdu. Quoi.
Parce que tu viens du Moyen-Âge.
Oui, tout à fait, là. D'accord.
Effectivement, mais le principe est le même que le théâtre. Hein. Il suffit de parler au public. Donc Ilsiona Nour, donc, tu es doctorante en littérature et le sujet de ta thèse est le texte dans le Codex, reflet poétique, image sociale, Marie dans les drames médiévaux, voilà, qui a l'air assez complexe. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux tout d'abord nous décrire un petit peu ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivée à faire une thèse en littérature?
Moi, je suis d'origine albanaise, donc du coup, j'avais commencé ma formation universitaire à Tirana. Donc, j'avais fait une licence langue étrangère, donc français, italien, anglais. Après, j'ai fait un master en français langue étrangère. Et après, je suis partie au Vietnam en tant que volontaire. Et quand j'étais au Vietnam, je faisais un master à distance à Clermont. Je faisais donc un master de littérature et j'avais bien aimé justement la matière de la littérature médiévale. Donc, je m'étais inscrite à faire un sujet de recherche que j'ai prolongé en deuxième année et après en thèse.
D'accord. Et alors, juste une petite précision, parce que je crois que tu es la première depuis... depuis qu'on a repris le 8 minutes avec cette année. Ta thèse, est-ce qu'elle est financée ou pas financée?
Non, elle n'est pas financée.
Elle n'est pas financée. Voilà, ça, c'est aussi un petit peu important de préciser. Et du coup, forcément, je pense que c'est un peu plus compliqué aussi dans ce cadre-là.
D'ailleurs, si tu me permets, je déconseille vivement de se lancer dans une thèse en sciences humaines sans financement. Enfin, voilà. Mais après, il faut toujours oser, il faut toujours faire une thèse si on a envie, mais il faut vraiment réfléchir à ça. Quoi.
C'est une question de passion, on va dire.
Oui.
Donc, tu t'intéresses dans ta thèse au théâtre médiéval du 14e et 15e siècle. Qu'est-ce que ce théâtre a de particulier? Pourquoi s'intéresser à ce théâtre-là en particulier?
Oh, ben, au fond, déjà, si tu veux, il ne faut pas oublier, donc 14e, 15e, c'est du théâtre avant Molière, parce que c'est bien de préciser. Exactement. Pour la plupart des gens, quand je dis Moyen-Âge, ils me disent Molière, non, c'est tout ce qui vient avant lui. C'est un théâtre que j'aime bien, qui est particulier, parce qu'à l'époque, donc, du coup, on a des dramatisations liturgiques, donc, c'est-à-dire toutes les images, toutes les mises en scène qui se passent à l'intérieur de l'église pour montrer des récits, des tableaux extraits de l'écriture. Et en même temps, d'une façon parallèle, on a le théâtre urbain. Le théâtre de la ville, qui est plutôt un théâtre qui est organisé par la municipalité, par les laïcs. Et justement, à cette époque-là, encore une fois, on a deux oppositions, parce qu'on a des farces, du théâtre qui fait rire, et après, on a aussi le théâtre religieux, donc c'est-à-dire du théâtre à sujet religieux. Aujourd'hui, quand on pense aux laïcs ou aux religieux, ou au théâtre à rire, ou aux drames médiévaux, les mystères, on les voit opposés, mais à l'époque, ils n'étaient pas vraiment opposés. Ceci dit, il ne faut pas oublier que le mot farce, première occurrence en langue française, est issu d'un manuscrit qui était sur le mystère de Saint-Martin. Donc, quand on était en train de retracer par des images le mystère, la passion du saint, eh bien, il y avait des intermèdes pour faire des farces.
D'accord, donc en fait, donc, les deux étaient mélangés, c'est-à-dire c'était du religieux, mais traité de façon comique parfois, ou avec des intermèdes comiques.
Tout à fait.
D'accord. Et donc, tu t'intéresses plus particulièrement, c'est dans le sujet de ta thèse, hein, au personnage de Marie, donc la Vierge Marie, hein, en l'occurrence. Pourquoi est-ce ce personnage en particulier ? Quelles sont ses particularités ?
C'est un personnage, je trouve, c'est une figure de synthèse pour moi, pour le Moyen-Âge, parce que sachant que Marie, c'est un personnage qui est extrait de la Bible, de l'Écriture, mais les évangélistes, ils sont très discrets sur elle. Si vous lisez les quatre évangélistes, peut-être on aura quatre ou cinq phrases de Marie. Donc de ce personnage silencieux, presque inexistant de l'écriture, ben on va le trouver dans des mises en scène où elle va réciter 500 vers. Donc la question se pose, comment on a fait pour bâtir 500 vers de Marie, d'où ça vient? Et on voit que c'est un brassage de récits pieux, de son rôle de mère humaine. Enfin, c'est vraiment une figure de synthèse pour moi. Elle m'intéresse bien parce qu'elle symbolise bien un peu l'esprit médiéval. D'opposition, où il y a un peu de tout, quoi.
Et justement, est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail? Comment est-ce qu'il est traité, ce personnage de la Vierge Marie, dans les drames?
Si vous voulez, le personnage de Marie, elle nous vient justement d'une mise en scène urbaine. Donc, ce sont des confréries, des orfèvres, des riches bourgeois de l'époque, qui se réunissaient. Et une fois par an, de temps en temps, ils avaient envie de montrer un miracle. Et justement, les miracles, par définition, c'est Marie.
Oui.
Et bien voilà, il y a d'abord le miracle de Théophile, après d'autres miracles, et on montait en scène Marie.
Moi aussi, quand je m'ennuie, j'aime bien montrer des miracles.
Des légendes. Et donc, je trouve que déjà, les circonstances qui font émerger le personnage, c'est vraiment un personnage qui interroge sur les liens entre la société et la religion, sachant que, n'oublions pas que pour l'époque, la religion, c'est un système englobant. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Elle encadre tout. C'est, si je peux me permettre un peu l'analogie, c'est un peu comme la politique aujourd'hui. Quoi qu'on fasse, il faut revenir à la politique. Mais à l'époque, c'est quoi qu'on faisait? Il fallait aller revenir par l'idéologie religieuse. Donc, il y a eu vraiment du mal pour que les corps se détachent. Et par rapport justement à Marie, il y a tout un système qu'elle reconfigure d'abord du point de vue poétique, parce que comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de récits sources où elle parle. Donc du coup, c'est plutôt des poésies pieuses que des religieux, elle avait écrit sur elle. Mmh. Mais vu qu'ils étaient un peu timides de parler d'une matière sacrée, donc ils disaient, c'est Marie qui me l'a révélé. Dans une vision, c'est elle qui m'a dit ça. Vu qu'elle me l'a dit, je peux me permettre de réécrire. Donc il y a un peu ces jeux-là. Et après des écritures en réécriture, on arrivait à un personnage dramatique de Marie.
D'accord. Et alors j'ai une question peut-être un peu plus concrète sur ton travail. Où est-ce que tu vas trouver les textes des drames médiévaux? Est-ce qu'ils sont faciles à trouver? Parce que j'imagine que tu vas pas à la médiathèque de Clermont-Ferrand pour trouver les drames médiévaux. Donc, comment est-ce que tu fais pour te procurer les textes que tu étudies dans le cadre de ta thèse?
Oui, enfin, voilà, comme le sujet, je parle du texte dans le codex. Le codex, c'est le manuscrit. Oui. Donc, moi, il y a déjà des éditions de mon corpus, mais je travaille vraiment beaucoup avec les manuscrits. Du coup, je suis assez moderne parce que je suis toute la journée sur mon PC parce que les manuscrits sont numérisés. Mmh. Donc BNF, elle a numérisé les miracles, les mystères de la passion et la présentation de Marie au temple. Enfin, c'est les trois sujets, les trois drames de mon corpus. Et ce qui me permet d'avoir des éditions modernes, sachant que les éditions modernes, elles ont occulté une partie des informations qui nous viennent des codex, donc du support matériel du texte. Et pour tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire de la... Des reflets de l'image sociale que je retrouve réfractés et reconfigurés dans le codex, mais j'essaie toujours de consulter les sources, de voir, parce que le codex, enfin, à l'époque, c'est du parchemin, donc c'est de la peau. Et parfois, on a une tendance à gratter là où on ne veut pas et on écrit un autre mot. Ouais. Donc ben voilà, pour moi, ce sont des éléments qui m'interrogent et qui enrichissent l'analyse.
Oui. Moi, j'ai une question. J'imagine que ces textes, ils ne sont pas en français, enfin, ils sont en vieux français. Ouais. Donc, du coup, tu as dû apprendre une nouvelle langue.
Oui, mais étant étrangère, c'est une facilité. Du coup, quand je me trompe, je dis « Ah, mais vous savez, je suis tout le temps en contact avec le latin, l'ancien et le moyen français. »
Mais c'est voilà. Très différent, le français d'époque, il est vraiment très différent ou c'est quand même assez proche
Pour mes étudiants qui n'ont pas de bons résultats, je pense que c'est très différent. Et je pense que oui, quand même, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, vous dites « cœur », à l'époque, on allait dire « queer ». Donc, enfin, ouais. Quand même.
Ouais. Et, voilà. Et du coup, c'est plus de l'ancien français que du latin?
Moi, c'est un texte du XIVe siècle en latin, la présentation de Marie au temple. J'ai les miracles qui, entre le XIIIe et XIVe siècle, c'est plutôt du moyen français. C'est du moyen français, c'est la langue d'Oyle, enfin, c'est le nord.
Mmh. D'accord. Alors, on va arriver au terme de cette interview. Alors, peut-être une dernière question. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu vas faire après la thèse? Ou est-ce que c'est une question tabou, peut-être? Je ne sais pas.
Non, parce que là, si tu veux, quand même, je pense d'être un peu à la fin de ma thèse. Donc, j'essaie de rédiger la conclusion générale, c'est-à-dire quelle porte je vais ouvrir pour essayer d'avoir un autre projet. Non, je pense, j'aimerais bien pouvoir intégrer un centre de recherche ou un organisme qui c'est un ou une organisme?
Un organisme
qui travaille sur les manuscrits, parce que j'aime bien, je pense que les manuscrits, la recherche des sources, elle pose aussi la question du genre poétique. Parce qu'entre écriture et réécriture dans le même manuscrit, je pense qu'ils ont beaucoup influencé aussi la poétique du théâtre. Donc je pense que j'aimerais bien vraiment travailler entre le texte et le codex.
D'accord, eh bien, très bien, merci Essiona, et puis bonne continuation et bon courage donc, pour cette fin de rédaction.
Merci.
Ça a l'air très compliqué, je le sais.
She's out to get her. She's out.
Et vous venez d'entendre Carmina Burana O Fortuna de Karl Orff. Alors, musique qui n'a pas été choisie au hasard par Alciona, puisque c'est une pièce musicale qui est inspirée de poèmes médiévaux enfermés dans un manuscrit du monastère de Benedictbeuern, je ne sais pas comment on dit. Et donc, les chansons qui étaient écrites par des goliards, des jeunes clercs qui écrivaient des chansons à boire et poèmes satiriques. Et dans ce manuscrit, donc écrit en latin, moyen allemand et ancien français, se trouvent aussi des jeux du théâtre tirés de l'écriture. En bref, tout un symbole de l'esprit médiéval bigarré. Voilà, merci Ilsiona pour l'explication.
Merci.
Évidemment, je n'ai pas tout inventé. Alors, est-ce que il y a du théâtre ce mois-ci à Clermont? On va le savoir de suite avec l'agenda préparé ce mois-ci par Quentin Rodriguez.
L'agenda du doctorant, c'est l'agenda.
Alors bonsoir à tous pour mon premier agendoc de l'année, puisque jusqu'à présent c'est toujours Marine qui s'en était occupée, qui gardait le relais depuis l'an dernier. Alors ce soir, alors qu'est-ce que je peux vous proposer pour ce mois-ci? Alors déjà on va commencer par les activités d'Octovergne, prévues ce mois-ci pour les jeunes chercheurs d'Auvergne. Alors vous êtes trop frileux pour affronter les pistes de ski par ce temps, alors venez casser la baraque, ou alors juste les quilles, c'est déjà bien, sur les pistes de bowling du B-Ball Center à la Part-Dieu, le vendredi 22 février. Inscrivez-vous à l'avance s'il vous plaît pour qu'on puisse organiser les covoiturages et pour réserver votre billet au tarif de 2€ la partie pour les 30 premières parties. Rendez-vous le 22 donc à 19h au parking des Salins ou à 19h30 directement au B-Ball Center pour passer la tête hors de votre labo et profiter d'une soirée chaleureuse. Deuxième annonce d'Octovergne du mois, les inscriptions à la RED 2019 sont ouvertes. Qu'est-ce que c'est que la RED? C'est la résidence d'écriture pour doctorants. Un week-end, du vendredi soir au dimanche, au chaud dans un gîte rural des Combrailles, sans avoir à se préoccuper de faire le ménage ou à manger, et sans perturbation extérieure, pour se consacrer entre jeunes chercheurs à l'écriture d'articles, de communications ou de manuscrits de thèse, ça c'est comme vous voulez. Ou de manuscrits médiévaux, peut-être pour Ilsiona. Ce deuxième millésime de la RED, après la première édition qui avait rencontré un franc succès l'an dernier, aura lieu du vendredi 29 au dimanche 31 mars. Au programme, séance d'écriture, conseils méthodologiques, séance de yoga le matin pour ceux que ça intéresse, et repas en commun, bien sûr. Dépêchez-vous de réserver, les places sont limitées. Pour la soirée bowling comme la résidence d'écriture, toutes les infos et les liens pour vous inscrire sont bien entendu à retrouver sur doctovergne.fr. Vous ne l'avez peut-être pas noté, mais c'est le nouvel an chinois. Nous entrons dans l'année du cochon, paraît-il. Et ouais, voilà, et les gens rigolent tout de suite, bravo. Et l'Institut Confucius, avec l'Université Clermont-Auvergne, organise une série d'événements, comme chaque année, jusqu'au 17 février, avec la parade des lions et dragons, samedi 16, à partir de 14h30, de la place de Lille à la place de Jaude. Avis à tous les doctorants et doctorantes chinoises de Clermont-Ferrand. Info à suivre sur www.confucius-clermont-auvergne.org. Pour les fans de musique qui veulent découvrir ce que la scène locale a à leur proposer, ce samedi 16 février, c'est aussi le 10e Showcase Club de la coopérative de Mai. 6 groupes à découvrir se succèdent dans la soirée et l'entrée est gratuite. Les amateurs de voix planantes et de style New Wave devraient jeter un œil, ou plutôt jeter une oreille, au concert de Brendan Perry à la Petite Copée le mardi 19 février. Mais si vous êtes plutôt chanson française aux influences jazz-rock, alors notez le passage d'Arthur H. à la Copée le vendredi 22. Côté jazz, blues, etc., inutile de présenter les rendez-vous hebdomadaires du caveau de la Michaudière au sous-sol du Puy de la Lune tous les dimanches. Et le mercredi 20, ce sera la Night Blues Jam à partir de 20h30. Si vous avez envie de vous dérider un peu, sachez que le spectacle de Pierre-Emmanuel Barré à la Copée le 28 février est déjà complet, malheureusement. Mais vous pourrez toujours vous rabattre sur les Baudins au Zénith du 1er au 3 mars, si ça vous dit. Les amateurs de théâtre, eux, seront probablement intéressés par le passage de la troupe de Christophe Warlikowski, le célèbre metteur en scène polonais, les 6 et 7 mars à la Comédie de Clermont. Ils joueront la pièce « On s'en va », adaptée du texte de l'Israélien Hanoch Levin, qui s'interroge sur la montée des populismes et la peur des mouvements migratoires dans les sociétés occidentales. Ça intéressera peut-être les gens qui sont intéressés par la chronique de Jules sur l'Italie. Dans un style plus léger, par contre, l'association Improvergne continue ses séances d'improvisation théâtrale au caveau de la Michaudière du 26 au 28 février. Avant de nous retrouver pour le Quad 9 Doc de mars, n'oubliez pas le prochain Doctovert, le 6 mars, mercredi 6 mars, toujours à partir de 19h30, toujours le premier mercredi du mois et toujours au bar Le Gavroche. Le lendemain, nous pourrons assister à l'école universitaire de management à la finale régionale du concours Mathèse en 180 secondes. On a ici sur le plateau un des vainqueurs de la finale, le vainqueur de la finale régionale de l'an dernier, qui a été jusqu'en finale nationale, Arnaud.
Voilà, et qui sera membre du jury, donc attention.
Oh, ah voilà, dis donc, sérieux, sérieux. Voilà, donc le concours qu'on ne présente plus, où un doctorant doit présenter en 180 secondes, c'est-à-dire 3 minutes.
Ouais.
Voilà, bravo,
ouais,
il est en maths.
C'est proportionnel.
Voilà. c'est-à-dire en 3 minutes, sa thèse au grand public. On souhaite évidemment bonne chance à tous les candidats et les candidates, et vous pouvez suivre les informations sur la soirée de finale sur ed.uca.fr. Enfin, vous pourrez aussi noter dès aujourd'hui la Semaine du cerveau, qui se tiendra du 8 au 15 mars partout en France. En Auvergne, elle est organisée par l'association Overbrain, avec une série de conférences grand public, d'expositions art et cerveau, et d'une soirée Pint of Science spéciale le 12 mars, organisée par l'équipe d'Octovergne Pint of Science. Toutes les infos sont sur le site d'Overbrain, Overbrain, AUVERBRAIN.sitew.fr.
Très bien, merci Quentin, bah voilà, tu t'en es très bien sorti hein, finalement. Alors, je suis désolé Quentin, on ne pourra pas mettre ta musique parce qu'on a un petit peu, voilà, on est un peu pris par le temps, donc, mais promis, le mois prochain tu pourras mettre ta musique.
Sinon j'en viens
donc, pas. Et donc effectivement on arrive déjà à la fin de l'émission, donc merci à tous les chroniqueurs, merci encore à Isiona, merci Quentin pour la technique. Si vous voulez réécouter l'émission et que ça vous a donné envie d'écouter les émissions des saisons précédentes, vous pouvez le faire en podcast disponible sur le site internet de Radio Campus ou sur le site de l'association Doctovergne, www.doctovergne.fr, site sur lequel vous pourrez retrouver aussi tous les autres projets, hein, notamment ceux dont a parlé Quentin, qui sont organisés par l'association. Pour ma part, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous donne rendez-vous le mercredi 13 mars à 19h pour le nouvel épisode de Quad 9 Doc.
Vous venez d'écouter Quad 9 Doc, l'émission de Doctovergne.